Le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La première réaction officielle de Téhéran, 36 heures après les frappes israéliennes sur les bases iraniennes en Syrie, l'Iran plaide pour le droit de la Syrie de se défendre contre l'agression israélienne. Correspondance avec Franck Matvon dans un instant en direct de Téhéran. Hier, le Premier ministre israélien déclarait que son pays ne permettrait pas à l'Iran de s'implanter militairement en Syrie. On sera en ligne avec Marie Semelin depuis Tel Aviv à propos des menaces de sanctions américaines sur les entreprises européennes qui continueraient de commercer avec l'Iran. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire estime qu'il est temps que l'Europe passe des paroles aux actes en matière de souveraineté économique. Nous l'entendrons. Le conflit à la SNCF avec la ministre des Transports Elisabeth Borne qui rencontre ce matin deux syndicats qui avaient accepté donc de se rendre à son invitation, la CFDT et l'UNSA. La CFDT qui parle d'un échange que l'on peut qualifier de négociation. On verra ce que ça signifie tout à l'heure avec David Ravier. Et puis le gouvernement réfléchit à autoriser une activité de taxi amateur dans les campagnes pour en finir, dit-il, avec les déserts de mobilité. Dossier suivi par Charlotte Lalanne, l'invité de la séquence interview, le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques. Pour son livre « Mon enfant se radicalise », des familles de djihadistes et des jeunes qui témoignent de ce livre, donc écrit avec Isabelle Serret, publié chez Odile Jacob. C'est donc la première réaction officielle de Téhéran. Nous sommes 36 heures après les frappes israéliennes sur des bases iraniennes en Syrie. Et le porte-parole des affaires étrangères donc accuse Israël d'inventer des prétextes pour frapper en Syrie. Il estime que le silence de la communauté internationale encourage cette agression israélienne. Les attaques multiples du régime sioniste, peut-on lire dans ce communiqué, en territoire syrien, la violation de la souveraineté de ce pays est une agression claire et un exemple de la nature de ce régime dominateur et menteur qui cherche à provoquer des crises. La Syrie continue encore se communiquer à tous les droits de se défendre. On voit donc que l'Iran ne se concerne pas directement attaqué dans ce communiqué. On est en ligne avec Franck Matvon en direct de Téhéran. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et vous avez suivi, vous, ce matin, la prière du vendredi à l'université de Téhéran où vous avez pu constater l'ambiance qui pouvait régner dans la capitale iranienne.
Oui, on a assisté ce matin à une démonstration de force des conservateurs de l'aile radicale du régime iranien. Les slogans étaient violents contre les États-Unis, mais aussi parfois contre l'Europe. Alors la journée a commencé par la prière elle-même à l'université de Téhéran. Des milliers d'hommes écoutent à genoux le discours de l'ayatollah Ahmed Khatami, l'une des figures des conservateurs iraniens. Il ne croit pas que les Européens puissent sauver l'accord sur le nucléaire. Si nous disons non à l'Amérique maintenant, dit-il, et oui à l'Union européenne, c'est une contradiction avec l'histoire. Vous, Iraniens, apprenez votre leçon. L'Union européenne est aussi peu fiable que l'Amérique. Puis il invite la foule à crier « Mort à l'Amérique, mort à Israël, les deux ennemis de l'Iran ». Le discours de cet ayatollah est plus pessimiste que celui du président iranien Rouhani, qui laisse encore une chance aux négociations avec les Européens pour sauver l'accord. Mais ici, ce matin, les propos tenus étaient beaucoup plus radicaux. Une marche a suivi cette prière à l'université. Et à la sortie de l'université, un petit groupe de conservateurs s'est rassemblé. Il a brandi des drapeaux américains brûlés en public. Là encore, on entend les mêmes slogans, mort à l'Amérique. Précisons toutefois que cet Iran très conservateur ne reflète pas l'opinion iranienne. Il s'agit vraiment de la frange la plus radicale du régime.
Franck Matvon, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Téhéran. Hier, le Premier ministre israélien déclarait dans un enregistrement vidéo que l'Iran avait franchi une ligne rouge, que l'armée israélienne avait riposté de façon appropriée en menant une très vaste attaque des positions iraniennes en Syrie. Nous sommes au milieu d'une longue bataille, ajoutait-il, et notre politique est claire, nous ne permettrons pas à l'Iran de s'implanter militairement en Syrie. Pour l'heure, donc, les armes se sont tues, la frontière entre le Liban et Israël notamment reste calme. L'armée, évidemment, reste en état d'alerte, car il n'y a pas que ce front syrien et iranien, il y a aussi des manifestations prévues dans la bande de Gaza. Et puis, lundi, c'est lundi que l'ambassade américaine doit être transférée à Jérusalem, la correspondance de Marie Semelin.
Pour Israël, cet épisode d'affrontement avec l'Iran est terminé. On se félicite d'une bataille gagnée haut la main. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, affirme que la plupart des installations iraniennes en Syrie ont été détruites. Il est allé jusqu'à saluer ce vendredi la déclaration du président iranien Rouhani de ne pas vouloir de nouvelles tensions. Le contexte est bénéfique au gouvernement puisqu'avec le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, le Likoud, le parti du premier ministre Benjamin Netanyahou, caracole dans les sondages. Plus de 60% des Israéliens se réjouissent de cette décision, mais ils sont la même proportion à s'inquiéter des risques de guerre. La semaine qui s'annonçait celle de tous les dangers. D'abord, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, lundi, le 14 mai, sous haute sécurité. Et puis le 15, la commémoration pour les Palestiniens de la Nakba, l'exil forcé de 1948 à Gaza. De très importantes manifestations sont prévues lundi et mardi. 52 Gazaouis ont déjà trouvé la mort ces dernières semaines près de la frontière avec Israël. 2000 ont été blessés à balles réelles. L'endroit est une poudrière de désespoir et certains redoutent un bain de sang.
Et le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, était invité sur le Golan ce matin. Il exhorte le président syrien, Bachar el-Assad, à mettre, je cite, les Iraniens dehors. Pendant ce temps, les Européens, eux, tentent d'éviter que des sanctions américaines soient infligées aux entreprises européennes qui poursuivraient leur commerce avec l'Iran. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, va recevoir mardi prochain les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, qui seront ensuite rejoints par leur homologue iranien. C'est ce qu'annoncent donc les services de l'Union, réunion qui vont se tenir une semaine avant la décision du président, après la décision du président américain de quitter donc cet accord. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était l'invité ce matin d'Europe 1, jugeait qu'il était effectivement temps pour les Européens de passer des paroles aux actes en matière de souveraineté économique. On l'écoute.
Qu'est-ce que nous voulons être ? Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Nous voulons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète, ou nous voulons, nous, Européens, dire voilà, nous avons nos intérêts économiques, nous estimons que nous voulons continuer à faire du commerce avec l'Iran dans le cadre d'un accord stratégique qui était conclu et du renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire. Nous estimons que c'est la voie juste et donc nous continuons à faire le commerce avec l'Iran. C'est ça la question de principe qui est posée. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que tous les États européens ouvrent les yeux. Nous allons, avec le président de la République, avec Jean-Yves Le Drian, nous battre pour avancer dans cette direction de la souveraineté économique européenne. Mais il y a urgence désormais à passer des paroles aux actes.
Bruno Le Maire donc avec Maxime Switek. En tout cas, les Européens peuvent-ils véritablement se défendre face à ces sanctions américaines ? L'économiste Jean-Marc Daniel expliquait ce matin sur France Inter que cela était finalement plus difficile qu'il n'y paraissait d'aller contre la volonté du président américain.
Il a un atout, il a une arme colossale, c'est qu'il gère la monnaie mondiale et que chaque fois qu'il y a un contrat qui est en dollars, il dit écoutez, le dollar, vous pensez que c'est votre monnaie, c'est la mienne. Donc je regarde ce que vous faites de cette monnaie et donc à partir de ce moment-là, votre échange qui a eu lieu entre l'Iran et la France mais en dollars, je regarde ce que
il
vous avez fait.
Il suffirait, disait Hubert Védrine qui était à votre place il y a deux jours, que les transactions se fassent en euros. Pourquoi c'est pas possible ? Pourquoi on le fait pas ?
Alors je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce que le président Emmanuel Macron hier a dit qu'il fallait dénoncer le fétichisme budgétaire allemand. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer que j'ai signé un traité, mais ce traité, je trouve que c'est du fétichisme, je trouve qu'il faut le réformer, que beaucoup d'opérateurs sur le commerce international se disent détenir des euros, c'est détenir la monnaie de gens qui sont toujours pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je rappelle que lorsque Poutine a dit à Madame Clinton étant secrétaire d'État à l'époque, il lui a dit, écoutez, si vous continuez votre attitude aussi agressive à l'égard de la Russie, nous allons facturer notre pétrole en euros. Et Madame Clinton, sur la base des notes de ses conseillers, a répondu « Vous pensez que la monnaie d'avenir, c'est la monnaie de la Grèce ?» Et donc à partir du moment où l'euro, c'est la monnaie de la crise grecque, à partir du moment où l'euro, c'est la monnaie de gens qui viennent vous expliquer « Je ne vais pas respecter le traité européen parce que vous êtes un fétichiste budgétaire », eh bien l'euro n'a pas de crédibilité. Et donc pour que l'euro soit véritablement la monnaie qui s'impose, il faut que, un, nous respections nos traités, et deux, que tous les gens qui sont soi-disant contre les États-Unis arrêtent d'appeler sur l'euro. Je pense que l'extrême gauche et l'extrême droite anti-euro sont les idiots utiles de l'impérialisme américain.
Point de vue de l'économiste Jean-Marc Daniel, donc ce matin sur France Inter avec Marc Fauvel. On va revenir justement sur cette intervention hier du président de la République à Aix-la-Chapelle. N'attendons pas, agissons maintenant, disait Emmanuel Macron, qui paraissait ainsi critiquer effectivement les atermoiements d'Angela Merkel sur les réformes en Europe. Le chef de l'État profitait de cette remise du prix Charlemagne pour son engagement pro-européen pour faire pression sur Berlin. Ne soyons pas faibles, choisissons, je crois, une zone euro plus intégrée, disait-il, avec un budget propre. Malgré donc les fortes réserves sur ce point du gouvernement allemand apparemment. David Philippot, bonjour.
Bonjour.
Quel écho ce matin en Allemagne de ces exhortations du président français ?
Eh bien, ce qu'ont retenu les journaux allemands, c'est la remise en cause de la politique européenne de l'Allemagne. Pour certains, le plaidoyer vibrant d'Emmanuel Macron a sonné comme un affront. Par exemple, le journal d'Aix-la-Chapelle, pour lequel Macron a attaqué la politique européenne de l'Allemagne. Il passe un savon à Merkel, peut-on aussi lire dans une tribune du Huffington Post, ou encore Der Spiegel, sur son site, qui met en exergue ses critiques sur, on vient d'en parler, le fétichisme allemand sur l'épargne. Mais la presse est plus partagée que cela. Le journal conservateur, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le couronne comme le donneur d'impulsion en Europe, avec un éditorial titré « N'ayez pas peur », un Macron paraphrasant Jean-Paul II. Pour Die Welt, il est celui qui donne du sens à l'Europe sans être certain qu'il échappe, faute de réponse allemande adéquate, à un destin à la Obama, couvert de lauriers au début, mais qui a déçu par la suite.
L'entente entre Mme Merkel et M. Macron n'est pas forcément donc mauvaise, mais il faut bien dire aussi que leurs agendas politiques ne sont pas forcément en phase non plus.
Oui, effectivement, et les cultures sont différentes. L'éloge d'Angela Merkel était plutôt tiède hier, mais il avait le mérite de la franchise. Elle a avoué des discussions difficiles, mais elle a promis un accord en juin à Bruxelles, comme si elle avait pris en compte un sondage cette semaine selon lequel les Allemands l'incitent majoritairement à se montrer plus européenne. Mais la chancelière, c'est une différence avec la France, ne peut pas faire cavalier seule. Elle a à ses côtés des partenaires de coalition dont l'agenda est différent. Exemple, les sociodémocrates, très bas dans les sondages, en quête de crédibilité, dont un des leurs, le ministre des Finances, vient de déclarer que l'Allemagne ne bougerait pas d'un mètre sur la politique européenne. Et puis, il y a l'allée bavarois, la Bavière, où il y aura des élections en septembre. L'AFD menace, et pour étouffer l'alternative pour l'Allemagne, les chrétiens sociaux de la CSU sont plus proches de la ligne Orban que de la ligne Macron. Donc au final, l'Allemagne semble un peu figée, prise de court par l'accélération que le pouvoir des mots ne saurait faire bouger de son immobilisme. Une Allemagne dont les dirigeants redoutent que le président français profite de son allant, de son élan pour siphonner la cagnotte allemande.
David Philippot, merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous depuis Berlin. En France, le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, estime que la grève des cheminots va coûter probablement plus de 300 millions d'euros à l'entreprise publique et il se montre sceptique sur la poursuite de ce mouvement durant l'été. En tout cas, ce matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, rencontrait deux syndicats qui avaient bien voulu répondre à son invitation, donc la CFDT et l'UNSA. Et la CFDT, au sortir de cet entretien, parle d'un échange qui pourrait être qualifié de négociation. David Ravier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, est-ce que tout ça peut changer quelque chose à l'avenir de ce conflit à la suite ?
C'est encore trop tôt pour le dire, même si la réunion d'aujourd'hui était beaucoup plus sereine que les précédentes. L'objectif de ce matin pour la CFDT et l'UNSA, c'était de discuter avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, des amendements qu'il souhaitait déposer sur le projet de loi de la réforme ferroviaire avant son examen au Sénat dans les deux prochaines semaines. Tout à l'heure, par téléphone, le secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot, Sébastien Mariani, me disait que la rencontre avec la ministre des Transports s'était bien passée. Pour la première fois, il avait l'impression d'entrer dans une vraie phase de négociation et il avait pu exposer ses vues sur les 42 amendements qu'il entendait bien porter jusqu'au Sénat. Selon lui, le fait d'avoir en face une ministre avec des propositions concrètes et où les arguments seraient retenus appelle à une forme d'optimisme. Sébastien Mariani me racontait que pendant la réunion de ce matin, il voyait que le gouvernement avait la volonté d'avancer vers des solutions, mais que cela était encore trop tôt pour dire si cela serait suffisant aux yeux des cheminots. Pour autant, la route est encore longue avant d'arriver vers un terrain d'entente, puisque le gouvernement reste ferme sur certains points, comme le changement de statut des cheminots ou la remise en cause du statut juridique de l'entreprise. Et ce sont justement ces points de rigidité qui rendent difficile toute négociation.
David Harvier, merci beaucoup. On est en ligne avec l'invité de la séquence interview, le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques. Bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Que pensez-vous de ce mouvement finalement? Parce qu'on a du mal à le caractériser, il est quand même assez atypique. C'est un mouvement effectivement de grève à épisode avec des points très, une tension assez forte entre deux positions qui apparemment ne sont pas conciliables. Et cependant, on cherche quand même une voie moyenne. Comment vous le percevez-vous en tant que sociologue et spécialiste aussi des conflits sociaux et du monde du travail?
Je crois que le conflit illustre ce qu'on voit dans notre société plus largement quand on prend un peu de distance. D'abord, le refus de traiter les problèmes sociaux et politiques d'une façon dominée par l'idéologie managériale, gestionnaire, c'est-à-dire il faut être pragmatisme, mais ça impose une rationalité instrumentale et des objectifs utilitaristes qui disent que les réformes sont absolument essentielles, mais sans que les personnes aient le sentiment que ce qui est représenté comme un progrès, ils le vivent comme une régression. Et ça illustre ce que j'ai essayé de décrire dans mon dernier ouvrage sur le capitalisme paradoxant, c'est-à-dire ces organisations paradoxantes. Pourquoi les gens vont pas bien, que ce soit à la SNCF, dans les EHPAD, dans les universités, dans les hôpitaux, dans toutes les institutions publiques, on voit exactement les mêmes phénomènes. Et qu'est-ce qui est paradoxant, c'est qu'on leur demande de faire plus avec moins. On dit que c'est au nom de la qualité du progrès qu'on fait ça, alors que c'est vécu par les gens comme des facteurs qui les empêchent de bien travailler. On met en place des indicateurs d'efficacité, de performance, qui, au nom de la qualité, traduisent tout dans une quantophrénie aiguë. La quantophrénie, c'est la maladie de la mesure. Et surtout, plus profondément, on dit la valeur aujourd'hui, elle est essentiellement vue en termes financiers. Alors que les travailleurs le vivent en termes de qu'est-ce qui est utile dans ce que je fais, qu'est-ce qui permet de faire du lien social, qu'est-ce qui permet d'améliorer les choses. Et là, il y a un malentendu profond. Et ce qui est intéressant, les cheminots sont encore sur, je dirais, des subsistances de la lutte des classes, alors que le gouvernement y organise plutôt la lutte des places.
Vincent de Goljac, merci beaucoup. On vous retrouve dans une petite minute maintenant pour parler de votre livre « Mon enfant se radicalise » sur un tout autre sujet, mais on verra sans doute qu'il y a sans doute des passerelles entre ce que vous venez de dire et le thème de votre enquête. Une question maintenant, est-ce qu'il y aura bientôt des taxis amateurs dans nos campagnes? En tout cas, le gouvernement y réfléchit. Pour en finir, dit-il, avec les déserts de mobilité. La mesure a été présentée au syndicat de taxi, au VTC, le 3 mai dernier. Elle consiste donc à autoriser des conducteurs amateurs à transporter des personnes contre rémunération, activité aujourd'hui réservée évidemment aux chauffeurs professionnels. Charlotte Lalanne, bonjour.
Bonjour.
Alors, un projet qui est salué par le président de l'Association des maires ruraux de France, qui répond vraiment à un besoin selon lui, mais ça fait quand même grincer bien des dents, et on le comprend du côté des organisations professionnelles du secteur.
Oui, c'est un casus belli pour ces taxis professionnels, déjà échaudés par l'arrivée des VTC en 2009, et qui, encore une fois, hurlent à la concurrence déloyale. Eux qui sont contraints de se former, mais d'investir dans des assurances professionnelles et des fonds de commerce, craignent donc l'arrivée sur leur marché de ces chauffeurs occasionnels. Sans compter un premier échec en la matière, rappellent les syndicats, il y a un an, la société Hitch, service de transport entre particuliers en ville, était condamnée à 440 000 euros d'amende pour exercice illégal de la profession de taxi.
Alors évidemment, le gouvernement assure cette fois-ci que les chauffeurs amateurs, ne vont pas venir concurrencer directement ni les taxis ni les VTC.
Oui, en théorie en tout cas, puisqu'ils exerceront dans des zones rurales qui en sont dépourvues. Le gouvernement promet également l'encadrement strict de ce service. Les candidats chauffeurs devront solliciter une autorisation auprès des collectivités locales. Autorisation conditionnée à la présentation d'un casier judiciaire vierge. Leur zone d'exercice sera limitée, leur rémunération plafonnée. Autant de modalités qui seront précisées par décret. Quant aux tarifs pratiqués, le ministère des Transports reste flou pour l'instant. Là aussi, les taxis professionnels redoutent de se faire ravir leur clientèle, car il y a bel et bien des taxis partout sur le territoire, martèlent encore les syndicats. Le problème, c'est qu'ils coûtent cher, trop cher pour certaines populations. Alors pour remédier à ces prix prohibitifs, les taxis professionnels demandent la défiscalisation de leurs courses dans certaines zones rurales. Autre proposition, la création d'un ticket transport pour permettre aux plus démunis de prendre le taxi. Des coupons financiers financés par les collectivités locales. Les syndicats de taxi et de VTC mettront leurs contre-propositions sur la table mardi, date de leur prochain rendez-vous au ministère des Transports.
Merci Charlotte Lalanne. Des centaines d'opposants à la réforme à l'université bloquent depuis ce matin les étudiants de Nanterre qui sont venus passer leur partiel et qui avaient été délocalisés à Arcueil en raison de la paralysie de leur faculté. L'université de Nanterre condamne et déplore l'action des bloqueurs et annonce le report donc des partiels qui étaient prévus aujourd'hui et demain à la maison des examens d'Arcueil. Retour vers notre invité, le sociologue Vincent de Goljac, donc pour son livre « Mon enfant se radicalise, des familles de djihadistes et des jeunes qui témoignent ». Ouvrage écrit avec Isabelle Serré, qui est journaliste et sociologue clinicienne également, publié chez Odile Jacob. Vincent de Goljac, un mot d'abord peut-être sur cette enquête que vous avez conduite, donc, et qui part d'une approche préventive. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé aussi avec une écoute approfondie, une écoute répétée des personnes concernées, d'abord de ceux qui étaient radicalisés, et aussi de l'environnement des familles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé?
Ben, en fait, moi, j'étais pas demandeur au départ, mais j'ai reçu une demande qui venait d'Isabelle Serret avec des mères de djihadistes qui avaient fondé une association et qui essayaient de faire reconnaître leur détresse, le fait qu'elles étaient eux aussi victimes. Et en même temps, c'est difficile d'utiliser le même terme de victime pour les familles de djihadistes ou pour les familles qui et ceux qui sont morts dans les attentats. Et elles étaient dans une grande solitude et elles disaient à Isabelle, on est rongé par la honte et la culpabilité. Et Isabelle, avec qui je travaille depuis longtemps, leur a proposé qu'on fasse un séminaire que je fais depuis très très longtemps sur « Face à la honte », parce qu'elles étaient rongées par la honte et la culpabilité. Et donc ces femmes, on a fait un séminaire ensemble, qui a duré plusieurs jours, dans lequel elles ont pu exprimer leur détresse et cette double honte, la honte d'avoir engendré un monstre, dit l'une d'elles à un moment donné, et en même temps d'être déchirée dans une culpabilité entre l'amour qu'une mère porte à son enfant et en même temps le fait de ne plus se reconnaître dans cet enfant qu'elles ont engendré. Elles étaient totalement déchirées. Et puis la honte sociale d'être stigmatisée, d'être en permanence sous la pour des raisons de sécurité qu'on comprend bien, la surveillance de la police, le fait de quelque part d'être soupçonné d'être victime du destin de leur enfant, fille ou garçon, et puis la honte d'avoir rien vu, la honte d'avoir vu cet enfant qui à un moment donné bascule et soit de n'avoir rien vu, soit d'avoir été impuissante à empêcher ces trajectoires destructrices.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux point de basculement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quels sont les facteurs essentiels?
Alors, je crois qu'il est important de distinguer ce qui est le basculement djihadiste, religieux, et ce qui est le basculement dans la violence terroriste ou les combattants qui ont combattu auprès de Daesh. C'est très important parce que dans les trajectoires de ces jeunes, donc on a interviewé des jeunes qui avaient été empêchés de partir et qui étaient incarcérés ou qui étaient sur la voie du repentir d'une certaine façon, en tout cas qui voulaient comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé. Et le premier point, je crois, tout à fait capital, ce sont des jeunes qui, au départ, sont des jeunes comme tout le monde. D'ailleurs, leurs frères et sœurs, dans les familles, il y en a un qui bascule et puis pas les autres. C'est, même s'il y a parfois deux frères, mais c'est une minorité.
Alors ça tient à quoi, justement ?
C'est la quête du sens, c'est la recherche de l'absolu, c'est deux facteurs essentiels. La quête du sens, le besoin de croire, le besoin de se donner un idéal et la déception liée à, j'évoquais tout à l'heure, la lutte des places. La plupart du temps, c'est des perdants de la lutte des places, c'est-à-dire ils ont essayé, ils sont insérés à l'école, ils ont essayé d'être bon élève pour faire les bons diplômes, pour avoir les bonnes places. Et puis c'est l'ensemble de ces petites humiliations quotidiennes. Je n'ai pas ma place ici, je suis renvoyé au fait que, bien que mes familles soient insérées en France, en Belgique, je suis pas vraiment un vrai Belge, je suis pas vraiment un vrai Français. Donc qu'est-ce que je suis? Et cette quête d'identité bascule à un moment donné années quand ils découvrent l'islam et ils disent je ne suis plus, j'ai pu à me poser la question de savoir si je suis arabe, musulman, belge, français, belge, français, je suis musulman, et tout d'un coup toutes les contradictions dans lesquelles ils sont semblent comme disparaître par rapport à l'engagement religieux et le fait d'être reconnu. À la mosquée on se respecte, à la mosquée on se serre la main, on a des valeurs, on redonne du sens à sa vie et on redonne un espoir d'une vie meilleure.
Alors expliquer, ce n'est pas justifier comme on l'a pu le dire parfois. Alors, c'est ça la question aussi un peu qui se pose quand on aborde
ces questions. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis investi, parce que j'avais tellement ulcéré par ces idées, d'ailleurs partagées par Manuel Valls et Nicolas Sarkozy à l'époque, que vouloir comprendre, vouloir expliquer l'inexplicable, c'est quelque part excuser l'inexcusable. Alors qu'il me semble que c'est en comprenant mieux les raisons pour lesquelles ces jeunes-là ont basculé, en étant plus proches des familles et de les accompagner dans la détresse dans laquelle elles sont, et de leur envie de réparer, de restaurer quelque chose et de sortir de l'anxiété dans laquelle elles sont, en s'investissant pour éviter que ça arrive à d'autres. Et c'est ça la grande idée qu'on défend dans ce livre et dans le programme de prévention qu'on a développé à Schaerbeek, à Bruxelles, avec Isabelle Serret, la commune de Schaerbeek, la fondation du roi Baudouin, etc. Les Belges sont très en avance sur nous. C'est l'idée qu'il faut impliquer les familles et les jeunes dans les programmes de prévention pour éviter que d'autres jeunes basculent.
Merci beaucoup Vincent de Goljac d'avoir été avec nous en direct donc de France Bleu Provence, que nous remercions pour leur aide. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Isabelle Serret, donc Mon enfant se radicalise, chez Odile Jacob. Un temps ensoleillé sur une grande partie du pays, à l'exception de l'extrême sud-est et de la Bretagne, où il y aura des averses dans la journée, des températures de 16 à 26 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, 17h, le magazine de la rédaction. Du Guatemala à la Bretagne, itinéraire d'un grain de café équitable. Reportage de Véronique Rebérotte, réalisé par Annie Brault, présenté par Aurélie Kiefer, 18h, journal avec Benoît Bouscarel.